Vous êtes biologiste de renommée internationale. Vous avez écrit plus d'une quinzaine de livres très connus, de romans. Vous avez obtenu plusieurs prix, dont le prix Mauron de l'Académie française. Vous êtes fondateur ou membre de plusieurs fédérations, sollicité dans divers forums ou diverses instances au niveau national, européen, mondial. Et la question de première importance était de savoir, est-ce que votre intervention à Pont-la-Grande ne vous impressionne pas trop ?
Je n'ai pas compris. On ne m'impressionne pas trop. Non, mais cet auditoire est tout aussi respectable que l'Académie française ou surtout l'Académie des sciences, qui m'a jamais convié à venir parler. Donc le titre de mon intervention, c'est un peu de parler de moi. Alors je vais quand même d'abord parler des autres, c'est-à-dire aborder le thème de la responsabilité du chercheur, globalement. Puis ensuite, je dirai effectivement quelques mots sur ma propre trajectoire en rapport avec la prise de responsabilité. Donc, est-ce qu'il y a une responsabilité propre du chercheur ? C'est la question. Et on parle là du chercheur scientifique, parce que le chercheur en sciences humaines et sociales peut aussi avoir une responsabilité. Mais je crois qu'elle n'est quand même pas de la même gravité que celle du chercheur scientifique, parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir de changer le monde matériel. Un historien, un sociologue n'a pas le même pouvoir de changer le monde matériel qu'un physicien ou un biologiste. Donc la responsabilité se pose différemment. Alors évidemment, il existe une responsabilité propre du chercheur, tout simplement parce que le chercheur est celui qui construit essentiellement l'avenir matériel. L'avenir matériel, on en parlait dans le bouquin de Sciences Citoyennes, Labo Planète, comment 2030 se prépare sans les citoyens. Cet avenir, il se prépare essentiellement dans les laboratoires. Ensuite, il est pris en main par des ingénieurs, des médecins, toutes sortes de gens. Mais c'est dans les labos que les choses sont d'abord produites. Donc, finalement, le chercheur est celui qui va changer le monde de la façon la plus nette et quelquefois sans recul possible, sans retour en arrière. C'est-à-dire que souvent, le chercheur fabrique de l'irréversible. Et puisque la recherche est aujourd'hui largement finalisée, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on cherche, on produit, on répond à des appels d'offres, à des contrats dans lesquels il est dit « voilà ce qu'on propose de trouver dans 3 ans, dans 5 ans ». Donc on ne peut pas nous raconter l'histoire que le chercheur ne sait pas ce qu'il va trouver et donc il ne peut pas être responsable de ce qu'il trouvera. Ça, c'était un truc qu'on pouvait raconter il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus possible. Dans le meilleur des cas, le chercheur va trouver ce qu'il avait promis. Il peut arriver qu'il trouve autre chose, mais c'est assez rare, ou qu'il trouve rien et ce n'est pas grave. Donc la responsabilité du chercheur est évidemment engagée. Mais d'abord, il faut quand même dire un mot de la responsabilité de ceux qui décident des choix de recherche. Le chercheur ne décide pas des choix de recherche. Il répond à des ouvertures qui sont données par d'autres. Qui sont les autres ? Alors c'est des commissions variées, des agences, des ministères qui définissent ce que doit être la recherche. Et à partir de là, le chercheur va s'inscrire ou non dans ces programmes qui sont déjà prévus en dehors de lui. Et jusqu'au XIXe siècle, la science avait finalement peu de pouvoir sur le monde ou sur l'humanité parce qu'elle était une force d'opposition à l'obscurantisme essentiellement, au pouvoir religieux par exemple, s'inscrivait dans la stratégie des Lumières. Et ce passé glorieux a permis de tirer l'idée que la science est toujours contre l'oppression, elle est toujours pour la liberté. Et c'est une idée encore assez forte chez beaucoup de gens et beaucoup de chercheurs aujourd'hui. Et que le progrès humain résulterait de l'accumulation des pouvoirs acquis grâce à la science sur le monde. Donc la science serait une force d'épanouissement humain indiscutable et on n'aurait pas besoin de parler de la responsabilité du chercheur. Alors ça, c'est complètement dépassé. Au XXe siècle, la science a pu se montrer au service des totalitarismes, aussi bien du stalinisme que du nazisme. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, elle est devenue ce qu'on appelle la technoscience, qui est au service du capitalisme. Alors, la technoscience, pour le dire brièvement, c'est cette espèce d'hybride entre science et technique qui fait que des techniques de plus en plus sophistiquées sont utilisées par les scientifiques, lesquelles produisent beaucoup de technologies et en tout cas s'inscrivent dans un mouvement qu'on peut qualifier de technologique parce que, comme je le disais, la recherche aujourd'hui, essentiellement, il y a encore quelques îlots de recherche de connaissances, mais essentiellement, la recherche annonce ce qu'elle va trouver et elle travaille dans un but finalisé, dans le but de... Bon, ça peut être un but tout à fait louable, de fabriquer un médicament, par exemple, mais on sait ce qu'on cherche, ce qui n'était pas le cas de la recherche il y a longtemps, du moins d'une partie de la recherche. Donc, puisque la technoscience s'est mise au service de système politique qu'on appelle le capitalisme ou le néolibéralisme, en tout cas dans le cadre du productivisme pour une croissance infinie, effectivement, elle produit des nuisances et c'est aujourd'hui avéré dans plusieurs domaines de notre vie quotidienne, que ce soit des poisons qu'on absorbe par le biais de l'agriculture, que ce soit le développement du nucléaire, bon, il y a beaucoup d'exemples. Et également, elle produit une modification sociale, par exemple avec les brevets sur le vivant, les OGM, toutes sortes de choses. En 1992 a été l'année de la conférence de Rio qui a révélé la situation dramatique de la planète à cause des actions de l'homme. Alors c'est pas seulement de la recherche et du chercheur directement, mais c'est à partir des innovations, évidemment, à partir du développement technologique et du productivisme, que la planète est aujourd'hui en danger, ça devient incontestable. Et c'est très étrange que la même année, en 92, juste avant la conférence de Rio, il y a eu le manifeste d'Heidelberg, on l'appelle comme ça. C'est un texte qui a été signé par beaucoup de chercheurs du monde entier, beaucoup de Français d'ailleurs, et qui mettait en garde contre l'obscurantisme, contre les freins qui sont apportés au développement scientifique. Donc c'était en complète contradiction avec les informations qui étaient apportées à Rio, où il apparaissait évident qu'il fallait commencer à s'interroger sur le développement à tout crin. Il y a toujours une confusion entre la science avec un grand S, celle dont on parle dans les cours de philo, comme recherche de connaissances, mais qui est largement en recul, je le disais, parce qu'elle coûte cher et elle rapporte souvent rien. Donc, c'est pas celle qui est mise en avant. Et la technoscience, donc ses actions finalisées pour la maîtrise du monde et le développement industriel. Mais c'est pas seulement dans la technoscience qu'il peut y avoir une responsabilité. Je voudrais évoquer quand même qu'exceptionnellement, il y a des cas de recherche dites fondamentales qui peuvent être dangereuses. Alors, on a l'exemple, par exemple, du développement avec la physique nucléaire, donc de systèmes de domination par l'énergie nucléaire, mais il n'était pas obligatoire de passer des connaissances en physique nucléaire à la fabrication de la bombe atomique ou même à la fabrication des centrales nucléaires. Je dis que ce n'était pas obligatoire, bien que je suis persuadé qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais il n'empêche que les chercheurs en physique nucléaire des années 30, par exemple, ne peuvent pas être mis directement en responsabilité avec ce qu'ont fait leurs successeurs immédiats dans les années 40, le développement de la bombe. En revanche, il y a des exemples où la recherche fondamentale, la recherche de connaissances, peut être directement critiquable. Je donnerai deux exemples. Celle qui consiste, par exemple, à créer un virus disparu, le virus de la variole, qui est une horrible maladie qu'on a réussi à éradiquer. Et il y a des gens qui se sont amusés à recréer le virus comme ça, pour faire de la science, pour voir si on était capable de le refabriquer. Donc depuis, ils l'ont enfermé. J'espère qu'il est bien gardé, mais il pourrait servir un jour. Ou bien plus récemment, il y a eu la création de super virus en modifiant le virus de la grippe, comme ça, pour voir de quoi on est capable et pour dire voilà à quoi on pourrait être exposé plus tard. Donc c'est des recherches dites de connaissances. On se demande s'il n'y a pas quand même un peu des projets soit militaires, soit pharmaceutiques derrière tout ça. Mais c'est une démarche conceptuellement irresponsable de fabriquer des virus de cette façon. Il y a beaucoup de choses à faire dans les laboratoires qui seraient plus importantes. Et je donnerai un autre exemple. Il y a des laboratoires aux États-Unis qui cherchent un gène de l'homosexualité. Alors ce n'est pas des gens qui chassent le PD, hein, c'est des homosexuels les chercheurs. Mais il voudrait démontrer que finalement, l'homosexualité est inscrite dans les gènes et en ce sens, l'homosexuel est donc innocent. C'est un peu glissant. Heureusement, je ne pense pas qu'ils vont trouver un gène de l'homosexualité. Mais voilà un type de recherche fondamentale qui pourrait s'avérer dangereux en premier chef pour les homosexuels eux-mêmes. Alors, ce qui permet d'éviter qu'on s'interroge sur la responsabilité du scientifique, et ça fait déjà longtemps, c'est qu'on pose toujours l'auréole de la science, avec un grand S, sur le développement technologique. Je pense par exemple, Ernest Renan écrivait il y a déjà longtemps, « J'appelle du nom de science ce que d'ordinaire on nomme philosophie ». C'est assez extraordinaire d'écrire une chose pareille, parce que si on croit les médias quand ils disent « les OGM c'est de la science, les bébés éprouvettes c'est de la science », alors où commence et où s'arrête la philosophie? On ne voit pas bien. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'il faut d'abord démystifier la technoscience, en démontant, par exemple, les lieux communs. Je vous cite quelques lieux communs qu'on voit régulièrement dans les médias, la radio. La science exige la liberté de la recherche. La science a sa propre logique. Il ne faut pas la contrarier ni la freiner. C'est-à-dire que, en général, les gens qui défendent à tout crin ce qu'ils appellent la science s'opposent au principe de précaution, même depuis qu'il est inscrit dans la Constitution, parce qu'il freine le développement scientifique. Il faut davantage de science pour réparer les dégâts de la science. Ça, c'est Jean-Bernard, le premier président du comité d'éthique, qui disait ça. Il y a des dégâts causés par la science, il le reconnaissait. La seule façon de compenser, c'est de créer plus de science. Et près de nous, d'autres ont répété ce genre de proposition. Donc c'est un optimisme béat. La science nous sauvera. Et là où elle ne nous a pas sauvés, il faut davantage de science pour nous sauver. La science trouve toujours le moyen de réparer ses erreurs. Donc ça, c'est... Il faudrait demander aux gens d'Hiroshima, de Fukushima, les victimes des pesticides. Il faudrait voir un peu comment la biodiversité va être recréée une fois qu'on l'a fait disparaître. C'est une absurdité totale. La science ne trouve pas toujours les moyens de réparer ses erreurs. Il y a de l'irréversible, évidemment. Et on entend aussi que la science ne peut pas être contrôlée car on ne sait pas ce qu'elle va trouver. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le chercheur aujourd'hui est quelqu'un qui a pour consigne de trouver quelque chose. Et on sait quoi. Donc il est très rare qu'il trouve autre chose. Parce qu'on travaille sous contrat et donc on programme l'invention qui va arriver au bout, si elle arrive. On dit aussi qu'on ne peut pas empêcher l'homme de chercher. Ça, c'est très fort. On peut faire tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais empêcher l'homme de chercher. Bon, on ne peut pas l'empêcher de tuer ou de voler, mais on a quand même créé la police, les tribunaux. Donc il y a quand même des choses où on pourrait empêcher que ça aille trop loin. Je citerai aussi Hubert Curien, physicien, ou Jean-Pierre Changeux, biologiste, qui ont parlé chacun de leur côté d'un droit de la science. C'est assez extraordinaire d'imaginer que la science ait un droit sur les populations, sur vous. Donc la science serait une entité autonome, non contrôlable. Tous ces lieux communs amènent à la même réponse. Et quand il y a des dégâts évidents causés par la technoscience, et vous en connaissez tous, eh bien on les attribue à des erreurs ponctuelles et on refuse que ce soit générique finalement et que la science contienne cette possibilité de produire des dégâts. Donc l'idéologie scientiste est triomphante. Scientiste, en anglais, c'est synonyme de scientifique, le scientiste. Mais en français, c'est péjoratif. Les scientistes sont les gens qui pensent que le monde ne peut s'améliorer que grâce à la science et par la science. Donc c'est une religion. Une religion qui évidemment s'oppose à la responsabilité du scientifique. Donc là, j'évoquais les généralités sur la science. Le scientifique lui-même, maintenant, qui est dans cet appareil, il a des responsabilités, bien sûr. La responsabilité du scientifique est supérieure à celle de l'ingénieur, par exemple. Tout à l'heure, on évoquait l'ingénieur dans cette salle, qui a aussi ses propres responsabilités. Mais le scientifique est en amont du travail de l'ingénieur. Il est plus responsable aussi que le médecin, qui traite des gens au coup par coup, on pourrait dire. Le scientifique va mettre au point des innovations qui vont servir à la Terre entière, d'un seul coup. Donc ça donne quand même des responsabilités importantes. Mais le scientifique lui-même, il a changé. Il n'est plus ce qu'on appelait le savant. Certains parlent encore de savants aujourd'hui, c'est un peu dérisoire. Parler de science et de savants, je pense que c'est des mots dépassés. Le savant est devenu un spécialiste ou un expert. C'est-à-dire que le savant qui savait beaucoup de choses sur presque tout a été remplacé par le spécialiste qui sait presque tout sur presque rien, sur un sujet tellement pointu qu'il est très étroit. Donc, et le scientifique est formé de cette façon, sans avoir aucune formation en sciences humaines et sociales, malgré tous les discours qui disent qu'il faudrait faire de la philosophie des sciences, il faudrait développer l'éthique à l'université. Bon, tout ça, c'est pipeau, il peut y avoir une heure comme ça, mais c'est juste pour se donner bonne conscience. Le chercheur n'a aucune formation là-dedans. Mon fils vient de s'inscrire à l'école d'ingénieur Polytech pour faire de l'informatique. Il est possible qu'il fasse de la recherche après, c'est peu probable, mais j'ai regardé le programme hier. Voilà, il est question dans ce programme de 96 heures de culture de l'ingénieur réparties sur 2 ans. Ça m'a beaucoup impressionné. Culture de l'ingénieur. Et c'est quoi la culture d'un ingénieur ? Ben, il y a 4 thèmes qui sont à égalité, 24 heures chacun. Communication efficace, 24 heures. Environnement stratégique, 24 heures. Problème économique européen, 24 heures. Puis culture scientifique et technique, quand même, 24 heures. Je ne sais pas ce que ça veut dire, culture scientifique et technique, dans ce contexte. Est-ce que c'est vraiment l'histoire des sciences, la critique des sciences, la philosophie? Je doute un peu. Mais en tout cas, sous le titre « culture de l'ingénieur », on voit que c'est quelque chose qui échappe complètement aux sciences humaines. Alors, ce qui est nouveau aussi dans la vie des chercheurs, c'est la compétition. Une forte compétition, qui est favorisée d'ailleurs par le système et par les institutions, entre les chercheurs, entre les instituts, entre les nations. Il y a le fameux slogan « publier ou périr ». Donc il faut aller plus vite, il faut absolument réussir. Les mots qui sont à la mode, c'est le classement des universités, c'est les pôles d'excellence. Tout ça n'encourage pas la responsabilité éthique. Et puis la mise en institution d'équipes nombreuses dilue la responsabilité. Aujourd'hui, vous avez des articles dans les grandes revues scientifiques publiés éventuellement par 50 chercheurs appartenant à 30 laboratoires différents. Qui est responsable du travail qui a été réalisé ? Responsable, je veux dire, au sens éthique. On ne sait pas bien. Il peut y avoir un chef d'équipe, c'est pratique, mais on ne sait pas qui est responsable du thème et de ce qui est produit. En même temps, le fait de travailler en équipe, c'est sûrement plus productif, mais c'est une dilution de la responsabilité. Le chercheur artisan est directement responsable de ce qu'il fait, mais le chercheur qui est dans une équipe de 20 personnes, bah, ma foi, sa responsabilité est autant diluée que son autonomie et que sa liberté d'ailleurs. J'évoque rapidement le cas que les journalistes aiment beaucoup quand on parle de responsabilité du chercheur. Ils parlent toujours du savant fou. Comme si le seul cas qui pouvait mettre en cause la responsabilité du chercheur, c'est quand il est un savant fou. Mais le savant fou, c'est fini. Bon, c'est un thème pour les romans, pour les films, mais c'est fini. Moi, j'en ai connu un savant fou dans mon équipe. On ne l'a pas gardé longtemps, parce que c'est quelqu'un qui fait du tort à toute l'équipe, justement, parce que aujourd'hui, la recherche est un travail collectif. Et le savant fou, il est piégé tout de suite, il est dépisté, il nuit à l'équipe et on l'expulse, bien évidemment. En revanche, les projets fous, mais qui sont décidés par les élus ou par l'institution, c'est comme les grands travaux inutiles, ceux-là, ils sont maintenus, ils sont sérieux. Donc ce n'est pas les individus tellement qui sont dangereux, c'est beaucoup plus, on pourrait dire, les institutions. La recherche contractuelle que j'évoquais tout à l'heure, elle amène des compromissions avec les industriels. Aujourd'hui, dans les contrats de recherche, il est presque toujours prévu qu'un industriel doit être partie prenante. Il doit être partie prenante un peu pour apporter des sous, mais beaucoup pour apporter une caution. Parce que l'industriel, évidemment, son but est de gagner des sous. Et s'il met 3 sous dans une recherche qui en vaut 100, eh bien, c'est qu'il espère qu'il va récupérer sa mise. Donc pour l'institution, la recherche publique, le fait de rendre obligatoire la présence d'un industriel dans un programme de recherche, c'est se garantir contre le n'importe quoi. Ça veut dire que cette recherche, elle va rendre quelque chose. Donc y a évidemment, quand le chercheur est pris là-dedans, il est un peu piégé, il est tout de suite dans des conflits d'intérêts puisqu'il est en lien direct. Et quand il est en même temps un expert devant les tribunaux, par exemple, ou devant les agences, son expertise est nécessairement partiale. C'est un thème qu'on abordera demain. Comment envisager une expertise honnête. Il y a aussi le développement du secret avec les brevets, qui sont partie prenante finalement de ce système de recherche industrielle. Le brevet entraîne le secret, mais il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est la fraude. La fraude est une conséquence un peu de ce type de recherche à toute vitesse et sous contrat. Et alors on parle de cas extraordinaires. On parle du Coréen, par exemple, qui avait prétendu avoir cloné un être humain. Bon, c'était pas vrai, mais ce type n'était pas un rigolo. Il avait quand même, et il continue de cloner des chiens. Il est le seul à savoir le faire. Donc c'était un expert. Et ce type-là, s'il a prétendu avoir cloné l'humain, c'est qu'il avait reçu des millions de dollars pour devenir la plateforme mondiale. Les Américains, quelques Français, des Anglais, allaient en Corée pour travailler sur le clonage humain. C'était donc l'endroit où on le faisait. Il avait des contrats qu'il devait honorer. Quand il arrivait au bout des contrats, ça ne marchait pas. Donc il a raconté que ça marchait. Et il y a une pression qui s'exerce sur le chercheur qui est obligé de répondre à la promesse qu'il a faite quelques années plus tôt. Bon, il y a aussi des gens qui sont carrément vendus. On pense à Richard Doll, cet épidémiologiste britannique qui a touché de l'argent des marchands de tabac parce qu'il prétendait que le cancer n'était pas aussi grave qu'on le disait, le cancer des poumons. Bon, il y a des gens comme ça. Mais il y a le petit chercheur moins connu est souvent pris dans des problèmes de fraude. Une enquête de la revue Nature, il y a déjà maintenant 7-8 ans, montrait que 30% des chercheurs, dans une enquête anonyme, avouaient avoir triché. Alors ça pouvait être simplement avoir piqué l'idée de quelqu'un, ça pouvait avoir amélioré des résultats, mais disons que la fraude est aujourd'hui quelque chose qui répond à la pression exercée sur le chercheur. Et que beaucoup de laboratoires de recherche font des petites fraudes. Ils arrangent les résultats. Pour publier, il faut avoir des résultats impeccables. Si vous avez 50 souris et que vous arrivez au seuil de probabilité pour démontrer qu'une molécule va avoir tel effet physiologique, si vous avez eu 55 souris au départ, vous auriez pu avoir quelque chose de significatif dans les résultats. Eh ben, on ne va pas recommencer l'expérience, recommander des souris transgéniques, les piquer. Non, on ajoute 5 souris. Et ça augmente évidemment l'effectif. Et on produit un résultat significatif. Et il y a plein de publications comme ça aujourd'hui. Donc ils produisent des résultats pas forcément faux. Mais en tout cas, pour ce qui est de la morale du scientifique qu'on donne aux jeunes chercheurs en stage dans les laboratoires, c'est sûrement pas excellent. Et c'est quelque chose qui se développe. J'ai appris récemment que dans les pays asiatiques, au moins en Inde, les chercheurs sont payés en partie, leur salaire est calculé sur le citation index, c'est-à-dire combien de fois leurs travaux sont cités dans les autres journaux. Et ça détermine leur salaire. Alors évidemment, ils ont tendance à multiplier le cas où ils vont être cités, à publier à toute vitesse, et donc à faire des résultats un petit peu fabriqués. Donc la responsabilité du chercheur, vous voyez qu'elle n'est pas celle du savant classique, elle est supérieure, parce que les moyens d'agir sont de plus en plus performants, et parce que les actions sur la planète et sur l'homme atteignent un niveau critique. C'est ce qu'on a appelé l'anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle période géologique dont l'homme serait directement responsable, c'est ça qui est nouveau, et qui fait que nous avons des changements climatiques, de choses, un changement des espèces vivantes. Tout ça est tout à fait. C'est une mutation brutale vers l'inconnu. Et tout ça accompagne, enfin se déroule en même temps que continuent les discours sur la maîtrise. Il y a toujours le chercheur, ou les académies pour le moins, répandent des discours, nous maîtrisons la situation. En fait, on maîtrise très très peu des choses qu'on répand à toute vitesse de cette façon-là. Là, je voudrais évoquer le philosophe allemand Hans Jonas, qui dans les années 70 avait proposé le principe responsabilité, surtout pour les biologistes et les physiciens. Parce qu'il disait que la manipulation de l'atome ou celle du génome pouvait créer des situations irréversibles et très graves pour la planète et l'homme. Donc il avait proposé le principe responsabilité qui consistait à mettre en avant le sens des actions avant la rentabilité financière de tel ou tel travail. Donc l'impact sociétal était quelque chose de fondamental à mettre en avant. Et ce principe responsabilité, on n'en parle pas du tout. On parle maintenant du principe de précaution. Alors il est dans la Constitution, et heureusement, il est mieux que rien. Mais le principe de précaution, ça correspond aux bonnes pratiques. Bonnes pratiques scientifiques. C'est-à-dire, on sait comment il faut se comporter pour faire un travail sérieux dans un laboratoire. Mais ces bonnes pratiques, c'est le minimum. Et par exemple, l'exemple classique qu'on donne de la responsabilité de chercheurs qu'ils ont manifesté, c'est l'exemple d'Asile Omar. Pour ceux qu'on n'ont pas entendu parler, c'est quand les biologistes moléculaires ont commencé à bidouiller l'ADN sur des bactéries puis sur des souris, ils se sont interrogés, ils se sont réunis dans une ville américaine qui s'appelle Asile Omar, et ils ont dit, il faut qu'on fasse gaffe, ce qu'on fait c'est dangereux, il ne faut pas que nos bactéries ou nos souris s'échappent des laboratoires, il faut qu'on définisse des conditions de bonnes pratiques pour ces nouvelles technologies qui sont potentiellement dangereuses. Bon, c'est bien qu'ils l'aient fait, mais c'est le principe de précaution. Mais ils ne se sont pas interrogés, selon le principe responsabilité, est-ce qu'il faut qu'on modifie des souris ? Et pourquoi faire ? Et comment on va les modifier ? Ça, ce serait le principe responsabilité de Hans Jonas, et qui devrait être posé en premier avant les bonnes pratiques. Donc, pour finir, je dirais que le chercheur est une personne normale. Ce n'est pas qu'un être d'exception. Il est souvent ambitieux, comme beaucoup d'autres. Il est vantard. Il est travailleur, peut-être plus que les autres, parce qu'il se prend un peu au jeu et qu'il a du mal à obtenir un poste statutaire.